France Culture.
À voix nue, Géraldine Mosna-Savoie, cette semaine avec...
André Comte-Sponville, philosophe.
Deuxième épisode, le temps des deuils, le choix du bonheur. Bonsoir André Comte-Sponville.
Bonsoir.
1977, vous voici diplômé, normalien, agrégé, mais 2 ans après avoir eu l'agrégation, en 1977, donc, vous vous réveillez avec une phrase de Spinoza en tête. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, il n'y a pas de crainte sans espoir. Vous dites que cette phrase a décidé de toute votre œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin de 77 ?
C'est plutôt une phrase que je me suis dite à moi-même quand j'étais dans les couloirs de la rue d'Ulm. J'étais donc normalien, donc un peu avant 77. Dans les années, je suis entré à l'école en normale sup en 72. Ça va être en 75, 76. Je me revois me disant dans les couloirs de l'école, je ne vais pas attendre la révolution pour commencer à être heureux. C'est un moment important pour moi parce que c'est le moment justement où j'arrêtais de compter sur la politique pour faire mon bonheur, ce qui est toujours bien sûr une illusion. On peut compter sur la politique pour combattre le malheur. Ça évidemment, il faut le faire, mais pour faire le bonheur de quiconque, c'est exclu. Donc voilà, je m'étais dit, je ne vais pas attendre la révolution pour commencer à être heureux. Et donc, ça me ramenait à une conception plus authentique de la philosophie, puisque la philosophie, dans la tradition grecque notamment, ça sert à vivre mieux et, si on peut, plus heureusement. Restait à trouver quelle philosophie. Alors, entre-temps, par rapport à mon enfance et mon adolescence, j'étais devenu athée, marxiste, matérialiste.
Intellectuel aussi.
Oui, évidemment. Et donc, un matin, je me réveille. Donc, oui, ça va être peut-être bien en 77, dans ces eaux-là. Donc, 77, j'avais 25 ans. Il y a une phrase qui me vient comme une phrase de réveil. Et c'était une phrase de réveil, finalement, qui est une phrase de Spinoza. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. C'est une phrase que je connaissais depuis très, très longtemps, que j'avais déjà citée plusieurs fois. Mais tout d'un coup, je me dis, mais alors, le sage, selon Spinoza, l'homme libre, comme il dit, il n'a pas de crainte, puisque la sagesse, c'est la sérénité. Mais s'il n'y a pas d'espoir sans crainte, s'il n'a pas de crainte, c'est qu'il n'a pas d'espoir, c'est qu'il n'espère rien. Et l'idée d'une sagesse désespérée, ce que j'appellerai plus tard un gai désespoir, m'a paru à la fois dérangeante, stimulante et forte. Voilà. Et donc, c'est de comprendre ce que ça voulait dire. Alors, en vérité, l'état de sagesse du sage, qui n'espère rien et qui ne craint rien, Spinoza ne l'appelle pas désespoir, parce qu'il donne au mot désespoir un autre sens. Le désespoir pour Spinoza, c'est quand vous espérez quelque chose, et puis ce quelque chose n'advient pas, vous êtes désespéré.
C'est la déception.
La déception, voilà. Mmh. Mais moi, ce que j'appelle désespoir, c'est pas la tristesse du dépressif, c'est le degré zéro de l'espoir et donc de la crainte.
C'est l'inespoir, vous dites.
C'est l'inespoir.
Mais vous n'aimez pas les néologismes.
Voilà, on aurait pu parler d'inespoir. J'ai préféré prendre ce mot de désespoir qui, en plus, dit la difficulté du processus. Parce que l'inespoir, on va dire, on va s'installer dedans comme dans un fauteuil. Je n'espère rien, je n'ai peur de rien. Eh bien, essayez, vous allez voir, ça ne marche pas. Parce qu'en vérité, s'il n'y a pas d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir, nous sommes forcément pleins d'espoir. Puisque plein de trouilles. Et donc l'espoir est là de toute façon, et donc il faut le perdre. Et le désespoir indique justement ce travail de la perte, ce travail du deuil, finalement, beaucoup mieux que de leur indiquer le mot trop confortable d'inespoir. Voilà.
Mais ce qui me frappe, c'est presque ce moment magique, André Comte-Sponville, où tout à coup, quand même, vous comprenez quelque chose, alors que vous êtes engagé politiquement, on est au milieu des années 70, presque fin des années 70, ça fait 10 ans qu'il y a eu mai 68, que vous vous êtes engagé dans cette politique-là. Les années 70, à l'université, c'est le marxisme, c'est le structuralisme, il y a la psychanalyse, il y a une forte dimension politique. Et quand même, là, à contre-courant, vous vous rappelez de cette phrase de Spinoza.
Oui, mais parce que j'avais traversé de désespoir au sens spinozien du terme, donc de déception. La déception religieuse, parce que vous avez perdu la foi vers l'âge de 17 ou 18 ans, et donc quand vous perdez la foi, ça change pas grand-chose pour ce qui est de la vie quotidienne, mais ça change tout pour ce qui est de l'espérance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une dimension d'espérance dans votre vie, une vie après la mort, le paradis, que sais-je, il faut assumer ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine pour l'athée, puisque... La seule vérité, c'est qu'on va tous mourir. Donc, il y a eu cette désillusion religieuse. Et puis, il y a la désillusion politique, parce que ces mêmes années, donc
là, vous commencez déjà.
Voilà,
oui.
Je rentre dans l'opposition interne au Parti communiste. C'est ce qu'on appelle l'époque de l'eurocommunisme. Je ne sais pas si vous, enfin, vous étiez trop jeune pour avoir vécu ça. Donc c'est
j'étais même pas née.
L'époque où les partis communistes européens se démocratisaient, s'ouvraient, deviaient moins sectaires, moins ouvriéristes, prenaient leur distance. Il y avait l'Union soviétique. Et puis patatras, en 77, le Parti communiste, constatant que le PS est en train de lui tailler des croupières, revient à des positions beaucoup plus intransigeantes, beaucoup plus ouvriéristes et beaucoup plus pro-soviétiques. Et donc moi, du même coup, je prends mes distances avec le Parti communiste. Et puis, la maturité venant, je ne sais plus quel était exactement le timing, mais j'ai fini par me retrouver social-démocrate, comme d'ailleurs la plupart de mes amis. Et donc, ça veut dire que l'espérance... J'avais perdu l'espérance religieuse et je perdais l'espérance révolutionnaire, puisqu'au fond, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de désespérant aussi dans la vie sociale. Et au fond, évidemment, en termes d'espérance, le communisme, la révolution, c'est beaucoup plus exaltant que la social-démocratie. Voilà. Et donc, sur le coup de ces deux désillusions, perdre de l'illusion religieuse, l'espérance d'une autre vie, perd de l'illusion politique, l'utopie, ce qu'il y a d'utopie dans l'idée même de communisme, il fallait bien que j'affronte ce désespoir. Voilà. Et donc j'ai essayé de l'affronter positivement, pas du tout pour m'enfoncer dans la mélancolie, mais au contraire pour en sortir, précisément. Et donc essayer de penser une sagesse, que j'ai appelée une sagesse du gai désespoir, donc très fortement inspirée de Spinoza, très fortement inspirée d'Épicure, et essayant de repenser à travers ces catégories-là ce qui me paraissait essentiel dans le marxisme, c'est-à-dire à la fois le matérialisme et une certaine conception de l'histoire comme dominée ou animée par la lutte des classes, ce que je crois, au fond, toujours vrai.
Qui étaient vos compagnons de l'époque? Vous avez parlé de Jean Salem, qui était un grand spécialiste du matérialisme antique, donc d'Épicure. Vous avez aussi évoqué à certains moments votre maître Louis Althusser. À ce moment-là, quand vous dites « moi, ce qui m'intéresse, c'est... bon, » Jean Salem, vous en étiez proche, donc il est spécialiste de l'Antiquité, d'accord. Mais quand vous dites à Louis Althusser, ben moi finalement, c'est la question du bonheur, c'est la lettre à Ménécée d'Épicure qui m'intéresse, j'imagine quand même que vous devez rompre avec un certain nombre d'attendus. Vous êtes moins cool, André Comte-Sponville, dans ce moment-là.
C'est plus ça.
Isolé.
Alors, Louis Althusser, donc, était mon professeur, mon ami, on se tutoyait, puisqu'on était tous les deux membres du même parti communiste. M'a plutôt encouragé sur ce chemin-là. Moi, j'avais fait ma maîtrise sur Épicure, et Althusser m'avait demandé d'en faire un livre qu'il publierait dans sa collection, ce qui était, vraiment, ça aurait été très, très prestigieux. Et puis, en réfléchissant à ce livre, je me suis rendu compte que si je le faisais, ça serait un petit essai althusserien, qui, au fond, était le contraire de ce que je pensais vraiment. C'est-à-dire que plus ça allait, plus la pensée d'Épicure m'importait beaucoup plus que la pensée d'Althusser. Que j'aime beaucoup, l'homme était adorable.
Et la pensée de Marx, donc.
Et même que la pensée de Marx. Mais, et donc, ça n'a pas choqué Althusser que je fasse ce cheminement-là. Ça a encore moins choqué un autre maître, un autre ami, qui était Marcel Conche. En revanche, ça a surpris dans mes milieux amicaux. Par exemple, le grand livre de l'époque, c'était plus Sartre, c'était « Les mots et les choses » de Foucault. Tout le monde parlait de ça, rue d'Ulm. Et donc, pour ne pas mourir idiot, j'achète les mots et les choses et j'en entreprends la lecture, que je trouve incroyablement ennuyeuse. Pour moi, ce n'était pas de la philosophie, c'était de l'histoire des idées. Alors, très impressionnante, bien sûr, pour ce qui est de l'érudition, très, très talentueuse pour ce qui est et de l'écriture et de la pensée, mais c'était de l'histoire des idées, ça ne m'intéressait pas. Et je me revois dire à mon meilleur ami de l'époque, écoute, j'ai essayé de lire les mots et les choses, j'ai renoncé, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai vu sur le visage de cet ami, que j'aimais passionnément, que quelque chose était en train de se jouer, et dans notre amitié, et dans mon rapport à la modernité du moment. Et donc, il fallait bien que je m'occupe, dans ma turne rue d'Ulm, mais ça devait être après l'agression, j'imagine, et donc je me dis, tiens, je vais relire les pensées de Pascal, que j'avais donc plus à 16 ou 17 ans, du temps où j'étais catholique.
Qui avait déjà été un choc pour vous.
Ah oui, un bouleversement, et que j'avais envie de relire une fois devenu... athée. Et alors là, bouleversement redoublé, parce que je comprenais mieux le livre, évidemment que je ne pouvais le comprendre à 7 ou 17 ans, le génie de Pascal me paraissait éblouissant, En plus, je me sentais très proche de sa sensibilité, hein, à la fois mélancolique et anxieuse. Et pour le coup, on a quelque chose en commun. Et ça me passionnait tellement. À un moment, je me lève d'enthousiasme et j'entends un floc. Il y avait 1 cm d'eau dans ma turne, rue d'Ulm. J'avais laissé un robinet ouvert et j'étais tellement pris par la lecture de Blaise Pascal que je m'en étais pas rendu compte. Hein. Évidemment, ça m'a frappé, ça m'a donné à réfléchir, parce que constatant à quel point Foucault, dont tout le monde parlait, que tout le monde célébrait, m'ennuyait, et à quel point Blaise Pascal, dont personne ne me parlait, me passionnait, je me suis dit, mais écoute, si tu veux être honnête, prends plutôt modèle sur Pascal que sur Foucault. Et donc ça m'a amené à ce que le même meilleur ami que j'évoquais à l'instant a appelé mon fondamentalisme philosophique. C'est une façon de ne m'intéresser que des textes fondamentaux, en laissant en gros les contemporains aux journaux ou à la mode. Et ça m'a sauvé, parce qu'effectivement, j'aurais pu faire, quand Akhtar m'a demandé un petit essai althusserien sur Épicure, mais à quoi bon, si vous voulez. Mais l'idée de prendre Épicure au sérieux, comme de prendre Spinoza au sérieux, de prendre Descartes au sérieux, de les prendre tous au sérieux, et d'essayer de philosopher pour de bon, comme disait Épicure, ça m'a sauvé justement de ces tentations à la fois parisianistes et universitaires, où pour beaucoup de mes condisciples, l'histoire de la philosophie tenait lieu de philosophie. C'est-à-dire qu'ils ne philosophaient plus. Ils travaillaient sur la philosophie des autres, qu'on appelle l'histoire de la philosophie, une discipline très respectable et très nécessaire, indispensable pour philosopher, mais qui ne tient pas lieu de philosophie. Et donc j'ai décidé de philosopher pour de bon, comme disait Épicure, donc de philosopher à la première personne, d'autant plus à la première personne que ceux qui m'importaient le plus l'avaient fait génialement. C'était Pascal dans les pensées, Montaigne, a fortiori, que je découvrais à cette année-là, dans les essais, Descartes dans les méditations. Le professeur Alquier disait, les méditations métaphysiques de Descartes, c'est l'histoire d'un esprit. Oui, c'est une autobiographie intellectuelle. Et pourtant, c'est de la philosophie. Voilà. Donc, philosopher pour de bon, philosopher à la première personne, philosopher à la française. Et donc, comme le style, c'est l'homme, ce que disait Buffon, si on veut philosopher à la première personne, il faut te donner un style qui permette d'exprimer cette singularité de la première personne. Et donc être aussi écrivain. Et c'est là où, renonçant à être romancier, on en parlait hier, ça m'était l'occasion de rester écrivain, mais en un autre sens, prenant modèle non plus sur Proust ou Céline, vraiment, je ne me sentais pas à la hauteur, mais prenant modèle plutôt sur Montaigne, Pascal, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Camus ou Sartre pour la partie non heideggerienne de sa pensée.
Vous auriez pu vous dire, André Comte-Sponville, ou on pourrait vous objecter qu'en prenant Descartes, Épicure, vous faites aussi de l'histoire de la philosophie, même si vous dites « je », mais vous faites aussi de l'histoire de la philosophie, alors que, par exemple, les philosophes de votre époque, on pourrait penser à, vous avez cité Foucault, mais il y a aussi Deleuze, Derrida, travaillent en fait sur des concepts contemporains où ils fabriquent. D'ailleurs, Deleuze se voyait lui-même comme un inventeur de concepts.
Mais d'abord, Deleuze est un immense historien de la philosophie, et même je dirais que ses meilleurs livres de très loin sont ses livres d'histoire de la philosophie.
Quand il parle de Spinoza, Nietzsche.
De Bergson, d'une part. D'autre part, bien sûr, vous avez raison, on ne peut pas philosopher valablement si on ne connaît pas l'histoire de la philosophie. Sauf que je n'ai pas fait de livre sur Spinoza, je n'ai pas fait de livre sur Épicure, j'ai fait un livre sur Montaigne, mon dictionnaire amoureux, mais j'ai fait des livres sur ma pensée à moi, et bien sûr, quand on pense, on s'appuie sur la pensée des autres, mais je n'ai fait, tel les livres, j'ai fait 30 de livres, à ma connaissance, je n'ai fait que 2 livres d'histoire de la philosophie, c'est mon petit livre sur Lucrèce et mon dictionnaire amoureux de Montaigne. Et puis, j'ai aussi plusieurs articles d'histoire de la philosophie,
oui,
notamment
des études.
Dans mon livre, ce qui s'appelle Les études, voilà. Mais l'essentiel de mes livres et ceux qui m'importent le plus, c'est pas des livres d'histoire de la philosophie, c'est des livres de philosophie où j'essaye de dire très simplement et le plus clairement possible ce que je pense.
Alors, j'ai une citation de vous, André Comte-Sponville, sous les yeux, où vous dites « J'ai toujours dit à mes étudiants, si vous pensez avoir une idée que personne n'a jamais eue, il y aura tout lieu de craindre qu'il ne s'agisse d'une sottise. À l'inverse, trouver une de ses propres idées chez un bon auteur du passé est toujours rassurant. » Quelle différence entre faire de la philosophie et trouver une idée qui existe déjà, en fait ?
Ben, c'est une idée qui existe déjà, vous suffit. On peut s'arrêter là, mais ça ne suffit jamais, parce que le monde change, parce que vous-même, vous changez, parce que vous posez des questions que Spinoza et Épicure ne se sont pas posées. Et donc, il s'agit bien sûr de s'informer de la pensée des grands auteurs du passé, mais afin, non pas de répéter la même chose qu'eux, mais afin d'essayer de préciser votre pensée à vous. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans ce premier livre, le traité du désespoir et de la béatitude. Le paradoxe, je l'ai bien sûr envoyé à Michel Foucault,
oui,
qui m'a répondu une lettre qui m'a d'autant plus bouleversé qu'il va mourir quelques semaines plus tard. Je cite de mémoire, mais je la connais par cœur. Foucault me remerciait de l'envoi du Mythe d'Icare, donc mon premier livre, et il ajoutait « Enfin, un véritable livre de philosophie, point d'exclamation, une véritable éthique, point d'exclamation, signé Michel Foucault. » Alors à l'époque, j'ai été sien, mais pourquoi il me dit ça alors que lui, il fait le contraire, parce que j'étais resté au mot, et à son livre, les mots et les choses. Sauf que, un ou deux mois plus tard, sort son Histoire de la sexualité, et là, je comprends, c'est qu'il avait fait au fond le même chemin que moi. Mmh. Il était revenu au grec,
oui,
pour comprendre que la philosophie, ça ne sert pas seulement à faire de l'histoire des idées, ça sert à penser mieux pour vivre mieux. Et j'étais très content de voir ça, de même que Deleuze m'enverra aussi un mot charmant pour un autre livre que je lui avais envoyé, si vous voulez. Donc, autant je me suis senti coupé de la modernité, mais il va de soi que Foucault, Deleuze, Derrida, c'est des gens pleins de savoir et de talent. Mais l'idée de mimer ce qu'il faisait me paraîtrait... C'était pour moi une impasse, et d'autant plus que si on laisse de côté les livres d'histoire de la philosophie de Deleuze, qui sont admirables, quand j'essaie de lire l'Antiodipe, ou la différence, les textes de Derrida, qui sont tapés de conférences sur la différence, tout ça me paraissait dérisoire. Dérisoire, parfois ridicule, de maniériste, pour ce qui est de Derrida. Totalement artificiel, souvent, pour ce qui est de l'Antiodipe de Deleuze. Et donc, moi, je reprenais mon petit Pascal, mon petit Spinoza, mon grand Montaigne, mon Aristote, que je vénère, vous voyez.
Épicure, voilà, Lucrèce.
Moi, c'est comme ça que j'ai envie de philosopher. Et tant pis, si c'est pas dans l'air du temps, mieux vaut faire ce qu'on aime que faire semblant d'aimer ce qu'on n'aime pas. Alors, du coup, quand mon premier est paru, ça a paru totalement anachronique aux intellectuels contemporains. Je me souviens que, comment ça s'appelle, Sarah Kaufman, qui deviendra ma collègue à Paris après, mais avait dit à Roland Jacquard, mon directeur de collection, mais qui c'est ce type, Comte-Sponville, qui cite Épicure ou Spinoza à toutes les pages, il n'y a pas une ligne sur Derrida. Ça lui paraissait fou. Et pourtant, elle avait raison dans le constat. Donc à l'époque, ça paraissait totalement archaïque, anachronique, ringard. 10 ou 15 ans plus tard, les mêmes parfois me reprocheront de surfer sur la mode de la philosophie antique. Mais, oui, mais sauf que ce n'était pas un pari de surfer sur la mode, mais c'est que c'est moi en partie qui avait poussé nos contemporains à revenir à quelque chose de la tradition antique, à savoir l'idée d'une philosophie qui ne sert pas seulement à penser, encore moins à parler de la pensée des autres, mais qui servent à penser mieux pour vivre mieux. Autrement dit, revenir à la définition même de la philosophie comme amour ou quête de la sagesse philosophia.
C'est ce que vous dites, André Comte-Sponville, c'est-à-dire que le choix, le retour au grec, à la philosophie des anciens, c'est à la fois un choix de méthode, mais aussi le choix d'une question qui est celle du bonheur. Vous citez cette définition de la philosophie. La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. On a parlé d'espoir, de désespoir, de crainte. On y reviendra dans un autre épisode de cette série, André Comte-Sponville. Mais vraiment, le bonheur, vous vous en êtes emparé comme d'une question.
Parce que c'est une question, la phrase que vous citiez, elle est d'Épicure. Hein. La définition épicure de la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. J'aime beaucoup cette définition. D'abord, j'aime beaucoup que la philosophie soit une activité. Ce que dira aussi Wittgenstein, 23 siècles plus tard, Wittgenstein écrit « La philosophie n'est pas une doctrine, mais une activité. » J'aime beaucoup que cette activité se fasse par des discours et des raisonnements. Et pas par des visions, des intuitions, des extases. Enfin, j'aime beaucoup, en effet, alors qu'elle nous procure le bonheur, je serais moins ambitieux, mais qu'elle tende, en effet, à nous procurer un certain bonheur. Et donc, c'est vrai que je suis revenu à cette tradition grecque, d'abord de la philosophie, mais qu'on trouve aussi bien chez les classiques. Chez Descartes, chez Spinoza, la philosophie, ça sert à vivre, à penser mieux pour vivre mieux.
Mais on avait oublié cette dimension-là, André Comte-Sponville, voilà, dans les années 70.
Vous pouvez lire tout Althusser, tout Deleuze, tout Derrida, tout Foucault, sauf le Foucault de la fin. Il se peut que le mot de sagesse ou de bonheur n'apparaisse pas du tout. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'au fond, le bonheur, ça intéresse tout le monde.
C'était devenu ringard, le bonheur.
Ben voilà, c'est ce que disait Blaise Pascal, et Freud dit exactement la même chose. Tout homme cherche le bonheur. Voilà. Vous savez ce que c'est Freud, je crois, dans l'avenir d'une illusion ou dans Malheur dans la situation, je ne sais plus. Qu'est-ce que les hommes recherchent? Ben, c'est pas difficile, écrit Freud. Ils cherchent le bonheur. Le problème, c'est que Freud et Pascal sont d'accord pour dire qu'ils cherchent le bonheur et qu'ils ne le trouvent jamais. Alors, c'est l'immense phrase de Blaise Pascal, « Nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. Si bien que nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » C'est inévitable-là, sous la plume de Blaise Pascal, il pèse quand même très très lourd, et ça a été mon problème. Autrement dit, je ne fais pas partie des gens qui vous disent « Le bonheur est facile, toute la vie est belle, écrivons en bleu et rose. » Je pense le contraire. Ma première expérience, c'est le malheur pendant mon enfance, c'est le tragique, notamment de la mort des proches, en l'occurrence de ma fille.
En 1980.
Mais c'est surtout l'impossibilité du bonheur. Et c'est ce qu'on appelle le tragique. Autrement dit, pourquoi j'ai tellement aimé Blaise Pascal, pourquoi j'aimais aussi Kierkegaard ou Albert Camus? Parce que ce sont des penseurs tragiques. Et mon premier rapport à la vie, c'est que la vie est une tragédie. Simplement, je ne vais pas attendre la révolution pour être heureux. C'est ça que je me disais dans les couloirs de l'école. Et au fond, j'ai aussi écrit parce que j'avais le sentiment qu'on pouvait être plus heureux qu'on ne l'était ordinairement. Que la vie soit tragique, ça n'est pas une raison pour renoncer au bonheur. Reste à ne pas se tromper sur le bonheur. Alors, on en reparlera plus longuement, mais comment dire la chose? Je suis convaincu que Pascal, Kant, Freud ont raison de dire que le bonheur tel qu'ils l'entendent est impossible. Sauf qu'on demande aux Français, mais c'est vrai dans tous les pays du monde, êtes-vous heureux? Dans tous les pays du monde, sauf en période de guerre, il y a entre 70 et 80% des gens qui répondent oui à cette question. Alors c'est intéressant ça. Alors quand j'étais jeune, je disais, mais les gens mentent, ils font semblant d'être heureux. J'en suis de moins en moins convaincu. Simplement, je pense qu'ils n'entendent pas par bonheur la même chose que ce que Pascal, Kant ou Freud entendaient par bonheur.
Ils n'entendent pas la béatitude.
Ils n'entendent pas ce que moi j'appelle la félicité, c'est-à-dire une joie constante, permanente, immuable. Bien sûr que ça n'existe pas. Et là, Pascal, Kant et Freud ont raison. Ça n'est pas non plus la satisfaction de tous nos désirs. Bien sûr qu'on ne sera jamais totalement satisfait, puisque nos désirs sont ouverts à l'infini et que notre vie est vouée à la finitude. Et donc, il y aura toujours en nous une part d'insatisfaction, ce que les Rolling Stones ont chanté joliment, « I can't get no satisfaction ». Je ne suis pas satisfait, je ne peux pas l'être. Mais alors, les gens qui vous disent qu'ils sont heureux, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne sont pas malheureux. Et donc, je suis parti non pas du rêve du bonheur, la félicité ou la plénitude, mais de l'expérience vraie du malheur. Et mon idée, c'est que quand on a été vraiment malheureux au moins une fois dans sa vie, et moi je l'avais été deux fois, la mort de ma fille, la mort de ma mère, ben on sait au moins par différence que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est simplement quand on n'est pas malheureux. Alors bien sûr, ça n'est pas une joie constante, ça n'est pas la félicité, ça n'est pas la satisfaction de tous nos désirs, ça n'est pas la plénitude. Ce n'est pas un bonheur absolu, c'est un bonheur relatif, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est bon? Et donc maintenant, quand certains me disent que le bonheur, ça n'existe pas, ma première réaction, c'est de me dire, un, en voilà encore un qui confond le bonheur et la félicité, ou le bonheur et la plénitude, comme Freud, comme Pascal, comme Kant. Et là, il a raison, ça n'existe pas. Mais deux, je me dis, en voilà encore un qui n'a jamais été vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est quand on n'est plus malheureux, quand la joie redevient au moins possible, ce qui est la définition même du travail du deuil chez Freud. Vous venez de perdre l'être que vous aimiez le plus au monde, vous êtes malheureux à crever, vous pensez que vous ne serez plus jamais joyeuse, et puis quelques mois plus tard, vous découvrez que la joie est redevenue possible. Ça n'abolit pas le deuil, ça n'abolit pas la perte, ce n'est pas une consolation, mais ça veut dire simplement que la vie continue. Et que cette vie-là, tragique, difficile, douloureuse, angoissante, mais avec aussi un sentiment de plaisir et de joie, qu'il s'agit d'aimer. Et donc, au fond, cette quête de la sagesse que j'ai d'abord pensée du côté des Grecs et des classiques, avec Épicure et Spinoza, j'en ai trouvé une formulation plus simple et peut-être plus vraie en quelque chose dans les Essais de Montaigne, dans l'une des dernières phrases, c'est simplement « Pour moi donc, j'aime la vie ». Eh bien, moi, de tempérament, j'étais peu porté à aimer la vie. Je ne fais pas des gens qui se réveillent le matin de bonne humeur, en disant je suis vivant, c'est merveilleux, continuons. Non, non.
Sombre et mélancolique, on
oui,
l'a
voilà,
dit.
Des réveils plutôt difficiles. Et pourtant, j'aime la vie, c'est-à-dire, comme tout le monde, et j'ai envie de dire, je l'aime d'autant mieux que je lui reproche moins de ne pas être autre chose que ce qu'elle est. Mmh. Et c'est pour ça, mon idée, c'est que souvent, les gens reprochent à la vie de ne pas correspondre à leurs rêves, de ne pas correspondre à leurs espérances. Mais quand j'ai publié mon premier livre, Le Mythe d'Icare, l'une des premières lettres que j'ai reçues d'un lecteur que je ne connaissais pas m'était écrite par un psychanalyste qui me disait qu'il était d'accord avec la critique que j'entreprenais de l'espérance parce que, me disait-il exactement, en tant que psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. Deux points, on ne se tue que par déception. Et quand ma mère s'est suicidée, un an ou deux après que j'ai reçu cette lettre, je me suis dit, ben voilà, ce psychanalyste avait raison. Maman s'est tuée par déception. Elle s'est tuée parce que depuis des années, des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Mais je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. Sauf que l'erreur de ma pauvre mère, et l'erreur de beaucoup de gens, c'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qui s'en étaient faits, d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La vie, elle fait ce qu'elle peut. Mon idée, à l'inverse, c'est que lorsque la vie ne correspond pas à nos espoirs, ça ne veut pas dire que la vie a tort. Ça veut dire que ce sont nos espoirs qui, dès le début, sont vains, illusoires, mensongers. Et que donc, il s'agit d'espérer un peu moins, donc de craindre un peu moins, pour aimer un peu plus, pour connaître, pour agir un peu plus et pour aimer mieux la vie.
Quand vous avez eu cette intuition, André Comte-Sponville, dans les années 70, de ce gai désespoir, est-ce que vous penseriez qu'avec les années 80, où vous avez vécu la mort de votre fille en 1980 et le suicide de votre mère en 86, la philosophie serait aussi utile, consolatoire, réparatrice, que vous auriez autant raison?
Non, mais d'abord, j'aime pas l'idée même de consolation. Moi, j'étais inconsolable, comme toute personne vraiment malheureuse, quand on perd un enfant, ou quand on perd sa mère et qu'on l'aime passionnément. Non, non, la philosophie m'a peu aidé dans ces circonstances-là, sincèrement.
C'est une éthique qui n'aide pas.
J'ai été brisé de chagrin. Non, ça aide après, quand on est sorti. Ça, la philosophie ne peut rien contre l'horreur. Mais elle peut beaucoup contre la fatigue, le découragement, les petites angoisses, les petites illusions, etc. Donc non, non, ne comptez pas sur la philosophie pour vous protéger du pire, mais profitez de la philosophie pour affronter le quotidien. Voilà. Et donc voilà, quand vous êtes au fond du chagrin, comme ça m'est arrivé, bon ben voilà, je l'ai vécu comme j'ai pu. Hein. Mais après, la vie continue. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où la pensée retrouve ses droits, sa force, son dynamisme. Donc la philosophie, c'est pas une protection, c'est pas une consolation. C'est une arme, c'est un outil. Encore une fois, il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Là, je retrouve volontiers ce que disait Deleuze. Si vous pensez que la philosophie ne sert à rien, n'en faites pas. Il a raison, mais à quoi elle peut servir? En gros, à vivre, c'est la réponse de tous les plus grands philosophes. Et je pense qu'ils ont raison.
Merci André Comte-Sponville. À demain pour la suite de ces entretiens.
À demain.
C'était À Voix Nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Patrick Muller, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Géraldine Mosna-Savoie disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.